Voilà, bonjour à chacun. À la fin de sa première épître, l'apôtre Pierre adresse quelques exhortations aux anciens, puis il le fait à des plus jeunes, et enfin il s'adresse à tous en les exhortant à l'humilité dans leur rapport mutuel. Ensuite, avant de conclure sa lettre, il poursuit en leur adressant encore quelques autres exhortations qui, de toute évidence, lui semblent capitales à dire avant de conclure. Et ce sont ces exhortations-là que j'aimerais partager ce matin avec vous dans le cadre de ce culte dit de rentrée. Mais c'est quoi un culte de rentrée ? Un culte de rentrée marque, à mon sens, au moins deux choses. C'est pas exhaustif. Premièrement, il marque des retrouvailles. Les retrouvailles de l'Église après la dispersion de l'été. Et c'est vrai, nous avons plaisir à nous retrouver, à revoir des personnes que nous n'avions pas vues depuis quelques semaines, et on pourra prolonger ça tout à l'heure avec le verre de l'amitié. Et puis deuxièmement, un culte de rentrée marque le point de départ du prochain bout de chemin que nous allons faire ensemble lors de cette année académique. Un point de départ où il n'est donc absolument pas incongru de donner une direction, de donner un cap, de faire aussi des rappels essentiels pour le chemin qui s'ouvre et qui continue en même temps pour chacun de nous. Et c'est donc ce que je vous propose de faire ce matin avec ce texte que je vous invite à lire maintenant, qui se trouve donc dans la première lettre de Pierre au chapitre 5, les versets 8 à 11, vous pouvez suivre à l'écran ou alors dans votre Bible si vous le souhaitez. 1 Pierre 5, versets 8 à 11. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui fermement la foi. Et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance, au siècle des siècles. Amen. Que dit l'apôtre dans ces versets qui pourraient baliser notre chemin pour cette nouvelle année académique ? Pour exhorter les chrétiens auxquels il s'adresse, Pierre utilise ici trois verbes à l'impératif. Et ce sont ces trois impératifs qui vont donner notre feuille de route pour notre message, mais aussi pour notre rentrée. Quel est le premier impératif ? Et donc notre premier point. L'apôtre Pierre dit « Soyez sobres ». Arrivé à ce stade de sa lettre, l'apôtre Pierre exhorte ses lecteurs à la sobriété. Et c'est de toute évidence une exhortation importante pour lui. Alors pourquoi est-ce que je dis cela ? Je dis cela parce qu'en fait c'est déjà la troisième fois qu'il le dit dans cette épître, qu'il lance à ses lecteurs un appel à la sobriété. Tout d'abord au chapitre 1, verset 13, « C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. » Chapitre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres, en vue de la prière. » Et puis notre texte, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Que faut-il comprendre par « soyez sobres » Nous savons tous ce qu'est la sobriété, en particulier dans le domaine de la boisson. Être sobre, c'est garder la mesure, c'est être modéré dans ce que je fais et en particulier dans le domaine de la boisson. Ça, c'est le sens courant. Mais est-ce là le sens voulu par l'apôtre ? L'apôtre Pierre demande-t-il à ses auditeurs, à ses lecteurs, de boire avec modération ? Il pourrait le faire. Mais je ne crois pas que ce soit là l'intention de l'apôtre en écrivant ces lignes. Je crois plutôt que la sobriété à laquelle l'apôtre appelle ses lecteurs, la sobriété appliquée à la vie spirituelle, doit se comprendre comme le fait d'avoir un style de vie dépouillé. Et en particulier dans la pensée de l'apôtre, un style de vie qui offre des possibilités, des espaces pour la prière. Relisons ce qu'il dit au chapitre 4, verset 7. « La fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. » En vue de la prière. Clairement ici, être sobre, c'est être sage, sensé dans ses engagements, dans ses activités utiles ou ludiques, dans son emploi du temps, afin d'avoir du temps pour la prière. En insistant sur cet impératif « soyez sobre », l'apôtre donne à l'évidence une place de choix à la prière dans la vie chrétienne. Et ce n'est pas par hasard ou pour rien. En effet, n'est-ce pas là que souvent le bât blesse ? Connaissez-vous beaucoup de chrétiens qui soient pleinement satisfaits par leur vie de prière ? Je crois que nous sommes tous conscients que nous pourrions mieux faire, que nous devrions mieux faire dans ce domaine. L'apôtre Pierre le sait, peut-être même bataillait-il avec cela. Et il dit « soyez sobres ». En effet, si je croule sous les engagements, si je ne sais pas dire non à toutes les sollicitations, si mes priorités ne sont pas les bonnes, si mes activités, mes loisirs, mes activités sportives, mes passions, mes séries, mon téléphone, mes réseaux sociaux remplissent tout mon temps libre, alors comment pourrais-je vaquer à la prière ? Comment pourrais-je trouver du temps pour prier ? De l'énergie, de la volonté, du silence tout simplement, pour prier. Pour un temps régulier de qualité avec le Seigneur, dans la prière, dans la parole. Chers amis, nous avons besoin peut-être plus que de toute autre chose, nous avons besoin de sobriété dans notre vie pour faire de la place au Seigneur. C'est une évidence, me semble-t-il. Mais aujourd'hui, avec tout le temps libre dont nous disposons, beaucoup plus que toutes les générations qui ont précédé, et avec la multitude de possibilités qui s'offrent à nous pour remplir ce temps libre, si je ne comprends pas pour agir cette question de la sobriété dont parle l'apôtre ici, alors je vais continuer à faire le constat dans ma vie tout au long de cette nouvelle année académique que ma vie de prière est insatisfaisante, voire médiocre. Chers amis, très concrètement, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre vie pour progresser dans ce sens? Quels sont les aménagements que chacun de nous pourrait faire, devrait faire dans sa vie pour dégager un peu plus de temps pour la prière? Quelles sont les choses dont je pourrais me passer, dont vous pourriez vous passer pour aller dans ce sens-là? Je crois que sans renoncement à certaines choses, il ne peut pas y avoir de sobriété dans notre vie spirituelle. Et sans sobriété, il n'y aura pas beaucoup de prière, il n'y aura pas vraiment de place pour la prière. Alors oui, soyons sobres pour vaquer à la prière. Peut-être serait-il bien que nous prenions la décision ce matin d'y travailler avec sérieux, et cela nous fera très certainement grandir dans le Seigneur. Après l'appel à la sobriété, l'apôtre fait celui de la vigilance. « Veillez, dit-il. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » C'est notre deuxième point. Ce n'est, me semble-t-il, pas un hasard si l'apôtre Pierre place ces deux impératifs dans cet ordre-là. En effet, la vigilance dans le domaine spirituel n'est vraiment possible et surtout n'est vraiment efficace que quand elle s'inscrit à la suite de la sobriété, que quand elle s'inscrit dans une vie de prière, si on veut le dire autrement. C'est une dangereuse illusion que de penser que je peux être spirituellement vigilant sans sobriété dans ma vie. En effet, celui qui est trop occupé pour prier est sans doute aussi trop occupé pour voir venir le danger, pour discerner la tentation, pour prendre la mesure du danger, pour lutter efficacement contre ce qui vient nous faire la guerre, spirituellement parlant. Après avoir exhorté ses lecteurs à la sobriété, l'apôtre les exhorte donc à la vigilance. Et pour mieux saisir ce nouvel impératif, il va nous falloir tout d'abord comprendre comment peut s'exercer cette vigilance. Et puis nous terminerons ce point en parlant de la raison de cet appel à la vigilance. Comment exercer la vigilance dont parle l'apôtre ? Premièrement, par la prière. Nous venons d'en parler, mais j'aimerais ici appuyer le propos avec un texte des Évangiles qui établit clairement un lien entre la vigilance spirituelle et la prière. Vous connaissez bien ce texte, c'est le contexte du jardin de Gethsémané, un tout petit peu avant l'arrestation de Jésus. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre qui écrit ces lignes, il y était, et il n'a pas pu être vigilant ce soir-là. Il n'a pas su être vigilant ce soir-là. Je lis dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 38 à 41. C'est Jésus qui parle, il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pas été capable de veiller une heure avec moi. » Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous venons de dire que pour être spirituellement vigilant, il fallait que la vigilance s'inscrive à la suite de la sobriété, s'inscrive dans une vie de prière. Et ce texte vient appuyer ce que nous sommes en train de dire. Dans ce texte, le physique et le spirituel sont mêlés. Les disciples n'ont pas pu veiller une heure, ils n'ont pas pu prier avec Jésus. Ils se sont endormis, physiquement endormis, mais aussi spirituellement. Pourquoi n'ont-ils pas pu prier ? À l'évidence, ils étaient fatigués. À l'évidence, ils n'avaient pas saisi les enjeux du combat spirituel qu'il faisait rage. Et puis surtout, il y a leur suffisance. Car oui, les disciples se sentaient forts. Ils se croyaient forts, alors qu'ils étaient faibles. Leur esprit était bien disposé, mais leur chair, la chair est toujours faible. Notons bien ici que ce sont tous les disciples. Et notons en particulier ce qu'ils ont dit à Jésus l'instant qui a précédé le texte que nous venons de lire. Matthieu 26, versets 33 à 35, Pierre prit la parole et lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Ah, Pierre est sûr de lui. Jésus lui dit « En vérité, je te le dis cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples, tous, sans exception, dirent de même. Tous les disciples dirent de même et nous connaissons la suite de l'histoire. Mes amis, pourquoi prier quand je me crois fort? Pourquoi prier si je pense être fort? Mais en réalité, la prière est toujours nécessaire à cause de la faiblesse de notre nature pécheresse, qui, elle, se croit toujours forte, bien évidemment. Et pour paraphraser ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est quand je pense être debout, c'est quand je pense être fort, que je suis en grand danger de tomber. Que je suis en grand danger de tomber et que j'ai absolument besoin de m'arrêter pour prier. C'est parce que je pense être suffisant que j'ai absolument besoin de prier dans ma vie. C'est pourquoi devant leur assoupissement physique et spirituel, Jésus les invite à veiller et prier. Prier et veiller comme une paire indissociable, parce que l'un ne peut aller sans l'autre, véritablement. La première manière d'exercer notre vigilance spirituelle, c'est donc par la prière. S'il existe un lien étroit entre prière et vigilance, il en existe aussi un entre vigilance et attachement à la parole. La vigilance spirituelle s'exerce non seulement par la prière, mais aussi par notre attachement à la parole de Dieu. Notre attachement à ce que Dieu dit, notre attachement à sa volonté pour nos vies. Déjà en son temps, le psalmiste disait, ce texte nous a été rappelé dimanche dernier, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Pour serrer quelque chose, il faut être au contact, n'est-ce pas? Pour serrer la parole de Dieu dans notre cœur, il faut être au contact de la parole de Dieu. Et plus celui-ci est régulier, et plus la parole de Dieu va habiter dans mon cœur pour me transformer, pour renouveler mon intelligence, pour mettre mes pensées, mes perspectives, ma perspective des choses au diapason avec la volonté de Dieu, pour me permettre aussi de discerner sa volonté. Et donc, nous en parlerons dans un instant, de pouvoir discerner les ruses du diable. Mes amis, la lecture, la méditation de la parole, l'étude de la parole ne doit pas être juste un moyen de nous donner bonne conscience devant Dieu, de nous donner le sentiment du devoir accompli. Si tel est le cas, nous faisons bien évidemment fausse route. Il y a dans le contact que Dieu nous invite à avoir avec sa parole quelque chose d'essentiel, quelque chose de vital pour nous, pour notre vie chrétienne, pour notre marche de la foi, pour notre combat de la foi. Il y va de notre relation à Dieu, c'est en réalité une question de vie. Il y va de notre vigilance, il y va de notre capacité à résister à notre adversaire, le diable. Nous y venons. Nous sommes une église des chrétiens qui croyons à l'importance de la parole et en particulier à l'importance de sa méditation, de son étude. Mais ne nous trompons pas d'objectif. Le nôtre, ce n'est pas d'emmagasiner des connaissances, de la culture biblique, mais c'est d'être toujours mieux équipé pour toujours mieux vivre dans la volonté de Dieu. Chers amis, en ce temps de rentrée, j'aimerais mettre devant chacun de nous le défi de l'étude et de la méditation de la parole de Dieu. Et pour relever ce défi dans nos vies, surbookées, n'est-ce pas ? On peut, je pense, tous le dire, nos vies sont surbookées. Eh bien, pour relever ce défi de la parole dans nos vies, il faut de la sobriété. Il faut faire de la place. Il faut faire des choix. Il faut faire des renoncements. Et la vigilance à laquelle l'apôtre nous appelle ne s'obtient qu'à ce prix-là. Alors pourquoi ne pas profiter de ce temps de rentrée pour décider de nous rattacher à un des 6 groupes de quartier qui existent dans notre église? Une fois par mois, 2 heures pour étudier le livre des Proverbes cette année. Pourquoi ne pas profiter de ce temps de rentrée pour décider de participer, quand je le peux, à une ou l'autre étude biblique le mercredi soir ou le jeudi après-midi? Ou alors, décider de rejoindre les formations du samedi matin une fois par mois? Et puis, c'est peut-être plus à la portée de chacun de nous. Pourquoi pas, de temps en temps, réécouter? Alors, je les ai comptés, il y en a 460. 460 messages enregistrés sur le site de l'Église. Pourquoi ne pas décider d'en réécouter un de temps en temps? Chers amis, soyons sûrs d'une chose, ce n'est jamais en vain que nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Ce n'est jamais en vain que nous faisons l'effort de lire, d'étudier, de méditer sa parole. Nous nous souvenons de ce que Jésus répondait à Satan lors de sa tentation dans le désert. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après avoir considéré 2 des principales manières d'exercer notre vigilance spirituelle par la prière et par l'attachement à la parole, j'aimerais dire un mot sur la raison principale de ces appels adressés par l'apôtre Pierre ici à la sobriété et à la vigilance. Et la raison qu'il donne, c'est parce que nous avons un adversaire. Notre adversaire, le diable. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Une remarque tout d'abord. Il ne s'agit pas ici, bien évidemment, de tout spiritualiser, ni d'ailleurs de tout diaboliser. Mais si l'excès du trop existe, l'excès du trop peu aussi. Et j'entends par là une compréhension de la vie chrétienne qui ne voit le danger nulle part. Le monde des bisounours. Chers amis, bien évidemment, le diable n'est pas derrière chacune des portes de notre vie. Il n'est pas derrière chacune des tentations auxquelles nous faisons face. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas à l'œuvre. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas notre adversaire. Le diable est l'adversaire de Dieu, et si je suis un enfant de Dieu, alors il est mon adversaire. Un adversaire qu'il ne faut pas surestimer, parce que seul Dieu est tout-puissant, c'est bien de le rappeler, et la victoire finale lui appartient déjà. C'est bien aussi de s'en souvenir. Pas de surestimation, mais pas de sous-estimation non plus. Notre adversaire ne doit pas être sous-estimé parce que s'il n'est pas tout-puissant, il est néanmoins rusé et puissant. Et il ne manque pas de moyens pour agir et pour nous atteindre. Le danger est réel. Cette dernière réalité, l'apôtre nous l'a fait comprendre en comparant le diable à un lion rugissant. C'est l'image d'un animal tueur qui cherche à impressionner sa victime, qui cherche à lui faire perdre ses moyens. Notons bien que littéralement, diable, diablos, signifie l'accusateur. Alors, on pourrait relire notre verset 8 ainsi. « Soyez sobres, veillez votre adversaire, l'accusateur, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Je crois que ce n'est pas fortuit si Pierre a choisi ici le mot « accusateur », le mot « diable » pour décrire celui qui est notre adversaire. En effet, l'accusation est une des armes particulièrement efficace avec laquelle Satan souvent nous trouble, nous fait vaciller. Et j'aimerais relever ici deux cas de figure. Premièrement, la réalité des accusations devant Dieu. L'accusateur rôde, et c'est peut-être avant tout devant Dieu que Satan cherche à nous accuser. Le livre de Job nous laisse entrevoir cette possibilité. Alors, est-ce que c'était une exception? Est-ce que... On ne sait pas, mais voilà, vous connaissez l'histoire. Et le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, aussi fait écho à cela. Au chapitre 12, verset 10, où Satan est appelé l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Donc, c'était peut-être quand même pas une exception. Chers amis, Satan est notre accusateur devant Dieu. Satan nous accuse. Et j'aimerais vous dire qu'il y a bien des choses qu'il dit qui pourraient nous condamner. Et pourtant, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre si Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Rien à craindre si nous avons été déclarés justes par Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit ceci, « Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui les justifie, celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. » Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Les accusations de Satan sont une réalité, mais l'œuvre du Christ qui nous pardonne et qui nous justifie sont tout aussi réelles. Et ainsi, nous n'avons rien à craindre des accusations de Satan, même si celles-ci sont fondées. Même si celles-ci sont fondées. Pour autant que nous soyons revêtus de la justice de Christ, pour autant que nous soyons au bénéfice de la médiation de Jésus, notre avocat, qui intercède auprès de nous, auprès du Père, étant assis à sa droite. Et c'est cette réalité merveilleuse qui fait s'exclamer l'apôtre Paul au commencement de ce même chapitre de Romains 8, quand il dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Chers amis, oui, Satan nous accuse, mais il n'y a plus de condamnation pour celle ou celui qui est uni par la foi à Jésus-Christ. Le deuxième cas de figure que j'aimerais souligner concerne les accusations de notre cœur, et je crois que ce sont elles qui nous donnent vraiment du fil à retordre. Oui, les accusations de notre cœur peuvent être d'une efficacité redoutable pour nous faire vaciller, pour nous faire reculer, pour nous arrêter sur le chemin de la foi. Ainsi, quand nous les écoutons, les accusations de notre cœur, quand nous en tenons compte, alors nous commençons à douter. Nous commençons à douter de Dieu, nous commençons à douter de son amour, nous commençons à douter de sa parole, de son pardon, nous commençons à douter de notre foi, nous commençons même à douter de notre salut. Nous commençons à douter de notre légitimité à servir le Seigneur. Oui, il faut le dire, il faut le reconnaître, notre vie n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. Et ce n'est pas toujours à tort que le diable nous accuse ou que nous nous accusons nous-mêmes. Oui, nous sommes pécheurs. Et pour citer ce que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, le péché nous enveloppe si facilement. Oui, il y a dans notre vie des manquements, des faiblesses, des choses dont nous ne sommes pas fiers. Et il est si facile de perdre la bataille contre les accusations de notre cœur. Mais si nos faiblesses sont réelles, la grâce de Dieu l'est aussi. Les promesses de Dieu le sont aussi. Et n'oublions jamais, comme l'écrit l'apôtre Jean, que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Voilà la bonne nouvelle, mes amis. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et ses promesses pour nous sont vraies et certaines. Promesses de son amour dont rien ne peut nous séparer. Promesses de son pardon offert à quiconque se repent. Promesses de sa grâce. Toujours nouvelle, promesse de ses bontés qui se renouvellent chaque matin. Promesse de sa justice acquise pour nous par le Christ. Promesse de sa victoire qui est aussi la nôtre. Chers amis, bien des choses nous accusent, prêtes à nous dévorer. Et il nous faut être vigilants. Soyons donc sobres et veillons, car notre adversaire, le diable, l'accusateur des frères rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est temps de terminer. Après l'appel à la sobriété, puis à la vigilance, il reste celui à la résistance. Ce sera beaucoup plus court. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchez qui dévorer, résistez-lui. Résistez-lui. Ici, l'apôtre nous présente la résistance comme la réponse appropriée au rugissement du diable. Dans la nature, les rugissements du lion ont pour but de paralyser de peur la victime, de la laisser sans réaction. Le rugissement du lion, c'est avant tout de l'intimidation. Ceux à qui Pierre écrivait cette première lettre étaient persécutés. Il faudrait relire toute l'épître pour vraiment le constater, c'est partout. L'Église était persécutée. Et il est facile de voir derrière la persécution des chrétiens les rugissements de Satan, cherchant à décourager, cherchant à effrayer, cherchant à apeurer. Mais Pierre leur dit « N'ayez pas peur ». Voilà ce que ça veut dire, résistez-lui. N'ayez pas peur, résistez-lui parce que ça ne sera pas en vain. Regardez ce que Pierre dit dans le verset suivant, au verset 10. Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, là il s'adresse à ces chrétiens persécutés, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Quatre verbes, quatre promesses. Et quelles promesses ? Être formé par Dieu, ça rejoint ce qu'Alain nous disait ce matin. Être affermi par Dieu, être rendu fort par Dieu, être rendu inébranlable. Désolé, je vais un peu trop loin. Chers amis, Satan rugit, mais Dieu a le pouvoir. Oui, c'est ça. Mais Dieu a le pouvoir, et c'est ce que dit le dernier verset, à lui la puissance au siècle des siècles. Celui en qui nous mettons notre confiance a la puissance au siècle des siècles, et c'est pour ça que nous pouvons résister. Parce qu'il nous formera, il nous affermira, il nous rendra forts et il nous rendra inébranlables. Il en a la puissance. Oui, la réponse appropriée au rugissement du diable, c'est la résistance avec confiance, parce que Dieu nous promet son secours. Mais comment résister ? Les deux éléments du texte rapidement, premièrement, par la foi. Ferme en la foi, résistez-lui, ferme en la foi. La résistance spirituelle, c'est avant tout l'œuvre de la foi. D'ailleurs, me semble-t-il, c'est la seule résistance qui vaille, qui soit utile et efficace dans le domaine spirituel. Il y aurait bien des choses à dire ici, et en particulier si nous allions voir ce que Paul dit dans ce fameux passage dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, où il nous invite à prendre les armes de Dieu et à prendre le bouclier de la foi en toutes circonstances, en toutes circonstances. Avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi en toutes circonstances pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Chers amis, il n'y a pas une seule tentation, il n'y a pas une seule épreuve, il n'y a pas une seule ruse du diable contre laquelle la foi soit impuissante si elle est mise en œuvre. Tous les traits du malin. Alors comment résister ferme en la foi ? Et puis, comment résister ? C'est la suite du verset, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous sommes invités à résister avec une conscience communautaire, avec une conscience de la réalité du corps de Christ. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls à mener le combat que nous menons. On peut avoir très vite ce sentiment que ce que nous vivons est exceptionnel et que personne n'imagine tout ce que nous traversons. Nous ne sommes pas seuls à faire face aux tentations qui sont sur notre chemin. Mais tout seuls, nous sommes toujours plus vulnérables, mais toujours plus forts quand nous sommes ensemble. Et ce qui est esquissé ici, c'est la belle réalité de l'Église, dans sa dimension universelle, bien sûr, mais aussi dans sa dimension locale, la belle réalité de la communion fraternelle, où nous pouvons lutter ensemble, prier les uns pour les autres, nous serrer les coudes, nous soutenir les uns les autres, résister-lui fermant la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Chers amis, nous venons de baliser le chemin qui est devant nous. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous proposer avec ces trois appels de l'apôtre Pierre. Appel à la sobriété, appel à la vigilance, appel à la résistance. alors que par la grâce de Dieu, nous puissions chacun comprendre ces choses et puis surtout décider de nous y appliquer avec l'aide de Dieu. N'oublions pas que nous sommes faibles, mais si nous sommes faibles, lui est fort. Il est le bon berger qui nous conduit, qui veille sur nous, qui nous défend et sur qui nous pouvons compter en toutes circonstances. Amen.